Bonjour, mes chers auditeurs. Que moi parler d'autre chose que de cet événement imprévu et retentissant. Laissons de côté l'anecdote et reportons-nous à l'histoire. Elle nous éclairera peut-être. La démission de Benoît XVI a un précédent. Au début du XVe siècle, l'Église a traversé une crise profonde, puisqu'il y avait deux papes, l'un à Rome, l'autre à Avignon. Cela entraîna une division de la chrétienté, c'est ce que l'on a appelé le grand schisme d'Occident. Quand Grégoire XII fut élu, il voulut mettre fin à cette situation, mais son rival d'Avignon, Benoît XIII, refusa. Après 2 ans de blocage, le concile de Pise les déposa tous les deux et élit Alexandre V, qui mourut peu après. Mais Grégoire XII et Benoît XIII refusèrent d'obtempérer et de démissionner. Le concile élit pour succéder à Alexandre V, Jean XIII, qui fut considéré comme un antipape. Mais ces deux rivaux continuèrent à s'entêter jusqu'à ce que le concile de Constance les dépose tous les deux et élise un nouveau pape en 1417, Martin V, marquant ainsi la fin du grand schisme d'Occident. Entre-temps, Grégoire XII avait démissionné. Cette démission était donc le signe d'une crise dans l'Église. N'est-ce pas le cas aujourd'hui? Certes, nous ne connaissons pas de rivalité pontificale, ce serait plutôt l'inverse. Mais nous connaissons depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis le Concile Vatican II, non pas un schisme, mais une ou des hérésies qui se sont installées au cœur même du pouvoir. Rappelons qu'en dépit des gestes de bonne volonté du pape démissionnaire envers la fraternité Saint-Pilice, l'acceptation de la messe du rite tridentin, la reconnaissance du fait qu'elle n'avait jamais été abrogée et surtout la réintégration des 4 évêques consacrés par Mgr Lefebvre en 1988, la cassure entre Écône et Rome n'a pu être abolie. Pourquoi? N'incriminons pas les hommes. Nul doute que de part et d'autre, ils ne soient de bonne volonté. Mais ils se heurtent à des problèmes théologiques. D'un côté, avec la fraternité, on a la théologie traditionnelle centrée sur Dieu et sur le Christ. De l'autre, on trouve la théologie conciliaire centrée sur l'homme et sur le monde. Nul mieux que Benoît XVI, lorsqu'il était encore cardinal, n'a mis en exergue cette opposition entre les deux religions dans son livre « Les principes de la théologie catholique » cité par Pascal Bernardin dans son excellent ouvrage « Le crucifixion de Saint-Pierre ». Ce texte est un peu long, mais il vaut la peine d'être lu et médité. De tous les textes du deuxième concile du Vatican, écrit le cardinal Ratzinger, la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, a été incontestablement le plus difficile et aussi, à côté de la constitution sur la liturgie et du décret sur l'œcuménisme, le plus riche en conséquences. Par sa forme et la direction de ses déclarations, il s'écarte dans une large mesure de la ligne de l'histoire. Ça, c'est vrai. Et permet, par le fait même, plus que tout autre texte, de percevoir la physionomie spéciale du dernier concile. Euphorie, parce qu'il semblait que rien n'était impossible à ce concile, étant donné qu'il avait eu la force de déloger les conceptions enracinées depuis des siècles. C'est-à-dire qu'il avait eu la force de foutre à la poubelle la théologie traditionnelle. C'est ça que ça veut dire, en clair. Si l'on cherche un diagnostic global du texte, on pourrait dire qu'il est, en liaison avec les textes sur la liberté religieuse et sur les religions du monde, une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. Moi, j'irais plus loin que le cardinal Ratzinger, je dirais qu'il est une sorte de contre-évangile. Contentons-nous ici de constater que le texte joue le rôle d'un contre-syllabus, d'un contre-évangile plutôt, dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il était devenu depuis 1789. D'un côté, cette vue seule éclaire le complexe du ghetto dont nous avons parlé au début, et d'un autre côté, elle seule permet de comprendre le sens de cet étrange vis-à-vis de l'Église et du monde. Par monde, on entend au fond l'esprit des temps modernes. Bien entendu, il faut ajouter que le climat de tout le processus était marqué de façon décisive par Gaudium et Spes. Le sentiment qu'il ne devait vraiment plus y avoir de mur entre l'Église et le monde, que tout dualisme, corps, âme, Église, monde, grâce, nature, et même, en fin de compte, Dieu-monde, était nuisible. Ce sentiment devint de plus en plus une force directrice pour l'ensemble. Voilà ce texte capital écrit par le cardinal Ratzinger. Ainsi, d'emblée, le cardinal Ratzinger nous prévenait que le Concile Vatican II, prétendument pastoral, avait fondé une théologie nouvelle, fille de 1789, en opposition totale avec la théologie ancienne. Les droits de Dieu avaient été mis à la poubelle au profit des droits de l'homme. L'évangile du Christ avait été remplacé par celui du monde. Or, le monde, c'est l'anagramme du démon. Le titre même de Gaudium et Spes est révélateur, joie et espérance. Le Christ invite chacun de nous à prendre sa croix. Le Concile s'en moque. Son mot d'ordre est simple, le bonheur est dans le pré, cours-y vite, pour l'attraper. Benoît XVI a voulu concilier ce qui ne l'était pas, c'est-à-dire le diable et le bon Dieu. Il a voulu interpréter le Concile qui est la révolution placée au cœur de l'Église en le situant dans l'herméneutique de la tradition. C'est rigoureusement impossible. Sa démission sanctionne cet échec. Son successeur, quel qu'il soit, n'aura pas participé au Concile. Ce sera là un atout considérable. On ne pouvait pas demander à ses prédécesseurs de critiquer le Concile, sinon ils se seraient reniés eux-mêmes. Le nouveau pape sera libre. Souhaitons que le prochain pape ait le courage de faire comme Pie XII en 1939, lorsqu'il leva 4 mois après son élection la scandaleuse condamnation de l'Action française par son prédécesseur, en mettant à la poubelle les nouveautés conciliaires. Au revoir, mes chers auditeurs, et au mois prochain.